Voilà, qui veut ouvrir le feu?
Je voulais aussi parler d'un mal-être goy. Pour m'être fait traiter très souvent de... Ça va très vite, hein, l'anathème, antisémite. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Au début, on n'est vraiment pas bien. Après, on fait le gros dos. Après, on discute. On dit, ben non, je suis pas antisémite. J'ai des souvenirs très précis de gens de gauche. Je me souviens en particulier, bon, il est mort, mais de réunion avec Pierre Goldman. Il venait de sortir de prison, et je me souviens très très bien, c'était à Libé. Et il a dit, devant moi et devant d'autres, « Moi, un goy, je l'autorise pas à parler d'Israël. » Comme ça. C'était clair, net et précis, et je l'autorise pas, ça veut dire je lui casse la gueule. Bon. On savait comment il était impulsif, mais c'était, il y a ça. Quand on lit des textes, par exemple, de Vladimir Yankelevitch, qui était un monsieur qui a magnifiquement parlé de Chopin, il y a un petit texte qui fait une quarantaine de pages, qui est abominable. Abominable. Un des plus grands esprits du siècle, qui dit textuellement, être critique, simplement, vis-à-vis de la politique d'Israël, de la part d'un goy, c'est la manière moderne d'être antisémite. Bon, donc il y a un malaise, moi je suis pas juif.
Est-ce que je peux juste vous rajouter un mot sur Yankelevitch, parce que ça va ajouter à ce que vous dites. Moi je l'ai eu quand j'étais étudiant en philosophie, comme professeur à la Sorbonne. Il disait une chose qui était, j'ose pas dire pire, mais du même genre. Il disait, depuis 1945, je ne lis plus Goethe, je n'écoute plus Mozart, je n'écoute plus Beethoven. C'est-à-dire, je veux dire par là que dans sa réaction, il y a une forme d'hypernationalisme, et pas seulement de rapport aux autres, d'hypernationalisme culturel, qui était tragique pour nous qui étions étudiants. On se dit, mais comment un homme aussi important peut dire une ânerie pareille?
Mais vous comprendrez que quand on est dans un débat, par exemple, moi je sens très fort, parce que je suis impliqué politiquement depuis très longtemps, qu'il y a des domaines où si on n'est pas juif, on a le droit que de fermer sa gueule. Mais c'est vrai, ça, il faut aussi arriver à ce que vous le compreniez, ça, dans un sens. Bon, on le fait pas, mais il y a cette pression, il y a cette pression.
Si vous vous souvenez des moments aigus du féminisme, il y a pas mal d'hommes de ma génération qui se sentaient des monstres gluants qu'il fallait exclure. Je crois que dès qu'on a un mouvement fort qui se manifeste, il y a toujours un extrémisme dont on est victime. Qu'est-ce que tu...
Ça renvoie à un débat qui est un débat pour moi majeur aujourd'hui en France. C'est-à-dire, tout le problème du conflit israélo-palestinien, c'est qu'il faudrait une bonne fois pour toutes qu'on admette que le problème n'est pas de se situer en fonction d'appartenance qui ferait que les Arabes seraient naturellement du côté des Palestiniens et les Juifs du côté des Israéliens, mais qu'on est dans un conflit auquel doit s'appliquer le droit international, et que par conséquent, ce qui importe, c'est d'en débattre, qu'on soit juif, arabe, auvergnat, corse ou groenlandais, avec comme outil l'application du droit international pour essayer de dégager une solution. C'est très important parce que sinon, on accepte de rentrer dans un débat de type communautariste, mais il n'y a pas de limite à ça. Parce qu'à ce moment-là, pour parler des prisons, il faut avoir été prisonnier. Hein ? Pour parler de l'agriculture, il faut avoir été paysan. Et on n'en sort plus, quoi. Parler de la présidence de la République, il faudra avoir été président, donc c'est même pas la peine d'avoir une élection présidentielle. Il y a quelque chose d'absurde dans le raisonnement lui-même. Je crois qu'il faut en revenir au débat démocratique qui est le débat à égalité entre citoyens. Cela ne nous empêche pas ce soir d'aborder le mal-être de ceux qui, justement, face à ces situations, et pour des raisons, je crois, plus profondes, ont un malaise spécifique.